Nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire et comme tous les lundis, un feuilleton sur la guerre froide, un livre d'actualité et le premier temps d'une série consacrée à l'histoire des relations entre mère et fille. Après le 34e épisode du feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide consacré à l'opération Bolero Paprika. Mais qu'est-ce donc que l'opération Bolero Paprika? Nous aurons le plaisir de recevoir Roberto Bizzocchi qui vient de publier chez Alma un livre très éclairant sur les sigisbées. Mais que sont donc les sigisbées? Des accompagnants, des chevaliers servants pour des dames mariées de l'aristocratie italienne du 18e siècle. Puis en deuxième partie de cette émission avec Séverine Yatar, nous ouvrirons notre série consacrée aux relations entre mère et fille en recevant Scarlett Beauvallet-Boutoueri qui vient de publier chez avec Emmanuel Berthiaud chez Belin Le Rose et le Bleu, dans lequel elle travaille sur la fabrique du féminin et du masculin depuis 5 siècles. Mais tout de suite, je vous l'ai promis, 34e épisode de la Fabrique de la Guerre Froide concocté par Anaïs Quien.
We must remember that Australia, New Zealand and Canada
President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb.
I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy.
La fabrique de la guerre froide. Le 7 février 1951, Alfred Coste Floret, maire de Luchon, déclarait « Le 7 septembre avait lieu une opération confidentielle dite « Opération Bolero Paprika » destinée à décapiter les cadres espagnols de la 5e colonne communiste en France. L'opération a donné des résultats utiles mais n'a pas réussi en totalité parce que les chefs du mouvement sont parvenus à se mettre à l'abri. Les anciens combattants de la guerre d'Espagne se sont fait remarquer lors des grandes grèves qui ont secoué la société française en 1947. Et le fantasme d'une invasion soviétique souterraine fait son chemin. Le gouvernement français tente de se débarrasser de ses gêneurs en 1950.
Le mouvement communiste espagnol est important.
Frinet-Pigenet.
Mais contrairement aux autres groupes espagnols, ils vivront dès 45 dans une semi-clandestinité.
Le Parti communiste espagnol est interdit en France ?
Non. Les Espagnols vont bénéficier d'abord du statut de réfugiés et qui plus est, comme les communistes ont souvent été dans la résistance, on va leur donner la carte de résident privilégié parce qu'ils ont rendu des services à la France. Donc, tout cela se passe très bien jusque dans les années 47. Et à partir de 1947-48, il y a beaucoup de grèves en France. Et les communistes espagnols, qui sont bien sûr des lutteurs, hein, ils ont fait la guerre d'Espagne, ils ont combattu à la fois sur un plan social et sur un plan militaire, c'est eux qu'on trouve souvent aux avant-postes de ces luttes. Des luttes qui sont très violentes.
À quel moment décide-t-on de cette opération Bolero Paprika ?
Alors, Pelletier, le préfet du Grand Sud-Ouest, qui est un ami personnel du consul de Barcelone, était prêt à la faire bien avant que le gouvernement la décide. Parce que le gouvernement protégeait encore les républicains espagnols. Alors que les préfets, ils sont déjà dans une autre logique, qui est plutôt une logique de répression. Il y avait le préfet de l'Aude qui voulait même déjà les remettre dans des camps de concentration. Donc, on est quand même un peu affligé de voir le discours qui est tenu par ces préfets du Grand Sud-Ouest. Mais ils ont préparé le terrain. D'autant que en février 50, avait été découvert, et c'est le premier dépôt communiste d'armes. Jusque-là, les dépôts qui avaient été découverts, c'était des dépôts anarchistes d'armes. Et à la faveur de cette découverte, le député Coste Floret veut interdire le Parti communiste espagnol. L'opération va arriver le 7 septembre 1950. Là, il y a plus de 400 décrets d'expulsion qui vont être lancés. L'opération s'appelle Bolero paprika, parce que boléro, c'est pour les Espagnols, paprika, c'est pour les communistes des pays de l'Est qui se trouvent sur le territoire français. Et donc, du coup, le 7 septembre, il va y avoir un vaste coup de filet sur toutes ces listes d'expulsés qui ont été proposées donc par le ministère de l'Intérieur. À Paris, ça va faire floc. Il y avait eu la fête de l'UMA, je crois que c'est un lundi que ça se passe, la fête de l'UMA le dimanche, ils ont prévenu tout le monde de se cacher. Donc ils ont pu en prendre que 17 à Paris. Par contre, il y en a 177 qui sont pris dans le sud-ouest. Et vont être pris des gens qui ne s'y attendaient absolument pas. Parce qu'ils étaient vraiment des seconds couteaux, je dirais. Donc, le décret d'expulsion se transforme en assignation à résidence, car on ne peut pas expulser des réfugiés politiques. Ils sont tous assignés à résidence, en Corse ou en Algérie, dans des conditions épouvantables. Et il y en a juste 33 qui sont envoyés en RDA, mais qui vont être très mal reçus en RDA, parce qu'on croit que ce sont des espions occidentaux qu'on leur envoie. La presse française en parle un peu au début, mais très vite, c'est l'étouffoir. À la fin de l'année 1950, les organes communistes le remettent sur le tapis, parce qu'à ce moment-là, il y a les grands procès, il y a le procès Kravenko, etc. Donc, ils veulent neutraliser ce qui est en train d'être dit sur les camps en Union soviétique, en parlant de ce qui se passe en France. Et c'est à ce moment-là que l'abbé Pierre, que la Ligue des droits de l'homme, etc., va s'inquiéter beaucoup du sort de ces Espagnols qui ont été envoyés, relégués, qui n'ont pas de travail, qui sont très mal logés, qui sont souvent chefs de famille et qui ne peuvent pas faire venir leur famille, etc. Donc il y a vraiment un mouvement qui s'enclenche et le gouvernement est très mal à l'aise parce que toutes les perquisitions qui ont été faites et tout, rien ne donne de matériaux pour dire oui, il y a atteinte à la sûreté de l'État. Donc ils sont très mal à l'aise et ils utilisent l'argument d'autorité. Il y avait urgence absolue et quand il y a urgence absolue, ben, les tribunaux ne peuvent pas mettre leur nez dans l'urgence absolue. Donc ils vont se retrouver dans une zone de non-droit où on fait d'eux un peu ce qu'on faisait d'eux en 40. C'était des asilés et ils n'avaient plus droit à quoi que ce soit. À partir de 52, la France sera obligée d'appliquer ce qu'est vraiment la Convention de Genève. Et donc, à ce moment-là, ils auront la possibilité de faire appel de la décision. Mais on les a éloignés définitivement quand même de leur territoire. C'est le résultat de cette opération.
Parce qu'ils n'ont jamais eu l'autorisation de revenir de là où on les avait expulsés ?
Non. Le décret de 50 n'est toujours pas révoqué. Et c'est d'ailleurs une des batailles que mène à l'heure actuelle l'amicale des guérilleros, qui est surtout constituée de fils, voire de petits-fils de guérilleros, qui demande l'abrogation de ce décret. Mais ce décret n'a jamais été abrogé.
Voilà donc pour ce 34e épisode de notre feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide, préparé par Anaïs Quin. Comme tous les autres, vous pouvez le télécharger séparément de l'émission du jour pour le garder avec une série, pourrait-on dire, pour le garder avec vous et pouvoir réécouter l'ensemble de cette série, La Fabrique de la Guerre Froide. Roberto Bizzocchi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour le livre que vous venez de publier chez Alma, qui s'intitule « Les Sigisbées ». Ce livre qui est surtitré « Comment l'Italie inventa le mariage à trois au XVIIIe siècle » est un véritable bonheur d'écriture et de lecture. Et je voulais d'abord dire cela avant même de commencer votre interview. J'ai pris un plaisir fou à vous lire. D'abord, que sont ces Sigisbées dont on connaît le nom, mais sans savoir véritablement ce que cela recouvre, Roberto Bizzocchi?
Donc avant tout, merci de vos paroles, mais les Sigisbées sont les accompagnateurs de femmes nobles dans l'Italie du XVIIIe siècle, les femmes nobles qui sont mariées avec un homme différent du Sigisbée.
Alors, ces Sigisbées sont visiblement, quand vous avez commencé à y travailler, pour ce livre qui vient tout juste d'être traduit, une spécialité, pourrait-on dire, italienne, même si cela se rapporte à d'autres moments de l'histoire humaine, pourrait-on dire, mais il y a là un contexte de naissance dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, à la toute fin du XVIIe siècle, et on pourrait presque dire aussi un acte de décès de cette figure qu'est le Sigisbée au début du XIXe siècle en Italie. Qu'est-ce qui explique, selon vous, la naissance de ce personnage, chevalier servant, qui va parfois plus loin avec la dame que d'être simplement un chevalier servant, avec l'accord du mari dans la société italienne de cette époque?
Oui, on peut parler de donc l'utum qui correspond au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, et donc à la galanterie du siècle des Lumières. C'est pas une spécificité italienne, la galanterie dans le siècle des Lumières. Nous sommes en France, nous pouvons dire que les maîtres de la galanterie dans le siècle des Lumières sont les Français. Mais dans ces contextes culturels, les Italiens ont développé un système de galanterie contrôlé. Hein? C'est-à-dire une occasion pour les femmes de sortir de chez soi après la fin de la contre-réforme, de la culture plus sévère, plus dure de la contre-réforme, sortir de chez soi, mais il faut qu'elles soient accompagnées par quelqu'un. Alors si les maris ne peuvent pas le faire ou n'ont pas envie de le faire, ce sont ces jeunes hommes qu'on appelle les Sigisbées, le chevalier servant, de faire ce travail dans l'intérêt des femmes, oui, de la sociabilité des femmes.
Dans d'autres pays ou à d'autres moments, on pouvait confier ça à une duègne ou à une femme plus âgée qui surveillait justement la jeune femme mariée pour qu'elle ne fasse pas de bêtises. Là, c'est un jeune homme qui accompagne ces femmes au salon, dans des théâtres, pour des sorties, dans tous les lieux où on peut se voir et être vu au bout du compte, sans que cela semble choquer personne, même si une opinion catholique, pour certaines un peu intransigeante, ou même des auteurs de théâtre comme Goldoni s'en moque, expliquez-vous, Roberto Bizzocchi.
Oui, et donc il est plus amusant de se faire accompagner par un jeune homme que par une tante âgée de 80 ans peut-être. Mais il ne faut pas penser à quelque chose de trop malicieux. En principe, le jeune homme qui accompagne la dame est vraiment un chevalier servant. Il peut être un ami du mari, un parent aussi, hein, quelqu'un en relation avec la famille du mari ou la famille de la femme. Et en principe, c'est une occasion d'entretenir de relations, de multiplier les relations entre les familles de noblesse italienne au siècle des Lumières, et en particulier de donner aux femmes des possibilités de sociabilité qui n'existaient pas en avance. Évidemment, cela peut, comme Goldoni le fait remarquer, peut aussi conduire à des situations un peu particulières, un peu moins régulières. Ça, c'est la vie, hein. C'est pas la faute aux Italiens seulement.
Oui, d'ailleurs, vous dites bien qu'effectivement, cette figure du Sigisbée au XVIIIe siècle prend le relais, développe d'autres figures connues. Le petit maître français, expliquez-vous, du XVIIe siècle, un jeune homme mondain, oisif et libertin qui pouvait accompagner là aussi des femmes, ou encore cette figure que je ne connaissais pas du brassier, qui est un domestique qui permet à la femme en particulier de descendre ou de monter dans son carrosse et il donne son bras, c'est pour ça qu'on l'appelle le brassier, mais également accompagne la jeune femme noble dans d'autres activités. Mais, vous dites-vous, il y a un changement entre le brassier et le Sigisbée, c'est que le brassier est un domestique. Le Sigisbée, lui, est un jeune homme noble qui, a priori, n'a pas forcément besoin de cela pour faire son emploi, pour avoir un emploi. Il est déjà noble, il est quelquefois abbé, touchant des bénéfices d'une abbaye, et donc il n'a pas besoin de cela pour travailler, c'est juste pour pouvoir participer à la conversation, expliquez-vous, Roberto Bizzocchi.
Oui, oui, c'est précisément comme ça. Et le brassier était un serviteur. Mais dans la société du XVIIIe siècle, on pense, bon, avant tout, on pense que les individus ont des droits, non seulement des devoirs. On commence à penser aux droits des individus, donc les individus ont droit à faire leur vie. Et comme le système économique ne permet pas encore l'égalité entre les fils et les filles, c'est normal, même dans le contexte de la culture des Lumières, que le fils puiné ne puisse pas participer à l'héritage familial. Et donc, ils ne peuvent pas s'épouser, ils restent célibataires, et on pense que, bon, ces jeunes gens auront sans doute la possibilité de réaliser leurs désirs les plus naturels, de certaines façons, avec des femmes qui sont dédiées à ce fin. Mais on pense aussi qu'il y a la nécessité de faire entrer ces jeunes gens dans une sociabilité adaptée.
Et de faire leur apprentissage du monde.
Et de faire de l'apprentissage avec des dames qui sont la typologie des femmes qu'ils auraient pu épouser s'ils n'étaient pas contraints à rester célibataires.
Alors, ils sont contraints à rester célibataires pour des raisons économiques, pour ne pas diviser les propriétés.
C'est comme ça,
pour
oui.
ne pas faire en sorte que la famille soit donc spoliée par un mariage et au bout du compte, ait moins d'argent au bout d'une génération qu'elle en avait auparavant. Et vous dites que la société italienne devient tolérante vis-à-vis de ces couples à trois, mariages à trois, le mari, la femme et le sigisbé, au point même, expliquez-vous, que des prêtres devant témoigner pour divorce à Gênes, comme le prêtre Don Chiappe, dit que s'il voyait une femme mariée qui, par principe, détestait le théâtre, les conversations et prônait de s'en garder, je dirais qu'une telle dame est étrangère au monde et à l'état matrimonial. C'est
le monde était une mauvaise épouse.
Ouais, c'est ça, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que la femme doit justement sortir, doit participer au salon, participer aux conversations quand on est une jeune femme noble à Gênes. Et si elle ne le fait pas, elle est en faute. Alors on pouvait penser exactement le contraire, Roberto Bizzocchi.
Non, mais dans le siècle de Lumière, on a raison de penser comme ça. Les femmes doivent être protagonistes de la vie sociale. Et il faut rappeler qu'en principe, c'est pas un adultère. Pas du tout. Pas un adultère. C'est un moyen, façon de faire participer les femmes à la vie sociale. Il y a un voyageur, donc les voyageurs étrangers qui arrivent en Italie pour des grands tours.
Le grand tour, c'est ce moment formidable où effectivement toute une aristocratie anglaise, allemande ou d'ailleurs décide de faire son apprentissage des humanités, en particulier en faisant le tour de l'Europe et en s'arrêtant parfois en Italie.
En Italie, parce que les grands ruines romaines sont en Italie, évidemment. Et alors les voyageurs étrangers font tous les grandes merveilles face à cette coutume qui leur semble si bizarre, si drôle, et surtout les Anglais, qui sont protestants, qui sont calvinistes, disent « Ah, mais c'est horrible !» Mais peut-être ils ne comprennent pas vraiment la nature de cette coutume, qui en principe n'est pas coupable.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est très subtil dans votre livre, publié chez Alma, qui s'appelle « Les Sigisbé », Roberto Bizzocchi, c'est que vous ne prenez pas un parti radical sur cette position, sur cette pratique des Sigisbé. Vous expliquez bien l'ambiguïté de cette situation. On est toujours dans l'ambiguïté, c'est-à-dire que, comme vous venez de nous le dire, on peut tomber dans l'adultère, mais ça n'est pas fait pour être un adultère. On peut vouloir donner plus de liberté aux femmes, et en même temps vouloir les contrôler. Et d'ailleurs, les voyageurs étrangers, comme le marquis de Sade, arrivant en Italie, se disent le sigisbétisme laisse peu d'accès à un étranger qui voudrait faire sa cour. Parce que, effectivement, puisque la femme est accompagnée par un deuxième homme, en l'occurrence, jeune homme, chevalier servant, ça n'est pas facile pour lui d'accéder à ses femmes, en l'occurrence. Et un autre, Charles de Brosse, qui est très connu, qui se rend à Rome en 1739, dit « Cette odieuse race des sigisbés épouse les femmes 10 fois plus que les époux. Par exemple, je me porte pour amoureux d'une petite dame Ricci, jolie et mignonne au possible, n'a-t-elle pas éternellement un certain Don Paul Borghese qui la sert de si près qu'on ne passerait pas un fil entre eux, donc il ne peut pas tenter de la conquérir, Roberto Bizzocchi.
Oui, il faut aussi se servir des stéréotypes dans la mesure où ils sont vrais et ils font comprendre la réalité. Et c'était intéressant pour moi de faire la comparaison entre le voyageur allemand et anglais qui était presque tous scandalisés, et les voyageurs français qui souvent disaient comme
ça,
vous l'avez rappelé, mais il est impossible de faire la cour aux dames ici. Il y a ce jeune homme qui... Et je voudrais ajouter un détail qui est... Ce n'est pas un détail, c'est une question assez intéressante pour moi. Sur l'image du sigisbéisme, c'est-à-dire le mariage à trois à la lumière, on a construit pendant le 18e siècle et encore plus pendant le 19e siècle une image de la morale des Italiens qui est mauvaise. Et cela est devenu très délicat au début du 19e siècle parce qu'alors l'Italie était le seul grand pays européen qui n'avait pas indépendance de l'étranger et qui était encore divisé. Donc c'est le début du Risorgimento italien. Et quand les Italiens du Risorgimento ont lu les commentaires des voyageurs étrangers du 18e siècle, début du 19e siècle, avec ces accusations que les femmes italiennes, les Italiens, mais encore plus les femmes italiennes, étaient toutes coupables. Donc ils ont dit non, 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 on doit réagir à cette accusation qui est inacceptable pour nous.
Oui, effectivement, c'était l'image même de l'Italie en train de se former, pourrait-on dire, qui était perturbée. Mais ce qui est très intéressant dans votre livre, vraiment passionnant, c'est que vous distinguez Italie du Nord, Italie du Sud, et même à l'intérieur de l'Italie du Nord, les cours royales et les villes anciennement communales, avec qui étaient des principautés, pour dire qu'il n'y a pas la même pratique du sigisbéisme à Naples, à Turin ou à Milan ou à Florence, et qu'effectivement, toutes les sociétés italiennes ne sont pas perméables à cette pratique du sigisbéisme et qu'il y a des endroits où elles ne se pratiquent pas ou presque pas.
Oui, presque pas. Nous avons dit que ce n'est pas une question de sexe. Hein. C'est avant tout une relation sociale.
Absolument.
Et donc, dans les villes italiennes où les noblesses ont encore le pouvoir... entretenir des relations sociales qui multiplient la relation sociale matrimoniale, c'est un autre mariage, un mariage en plus, est évidemment plus important que dans les villes où il y a une cour et donc où la sociabilité est sous le contrôle du roi, du prince, etc. Et donc il est moins important qu'il y ait des relations sociales particulières, un peu ambiguës, entre les familles et les membres de ces familles nobles. Donc, à Venise ou à Gênes, le sigisbéisme est plus important qu'à Naples ou à Turin.
Oui, et même dans certaines familles plutôt que dans d'autres. Et vous parlez parfois même d'arrangements entre frères.
Oui, parce que normalement, pas toujours, mais normalement pour nous aujourd'hui, la réalisation de quelqu'un, c'est se marier. Bon, pas pour tous, mais souvent c'est... Bon, il faut dire que dans la culture du XVIIIe siècle, c'est pas toujours comme ça. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes hommes qui ne pensent pas qu'ils doivent se marier. Et ils sont heureux s'ils font, comme vous venez de le dire, le petit abbé. Et ils s'amusent en société, ils ont quelques amis, quelques fiancés, et ils ne doivent pas accepter les devoirs du mariage qui sont assez lourds. Et donc, il arrive souvent qu'il y ait un pacte, un accord entre les frères, et tu vas te marier, moi je m'amuserai pendant ma vie en société.
Et que fait-on, parce que quand on vous écoute et quand on vous lit, on se dit, tiens, et les CJSB sont forcément célibataires. Mais il arrive, et vous tombez dessus dans les archives, que parfois les CJSB ne le soient pas. Alors là, moi, j'ai été étonné. On peut être donc chevalier servant d'une dame qui est elle-même mariée, et être soi-même marié, c'est possible. C'est rare.
C'est un peu plus rare parce que, comme nous l'avons déjà dit, le CJSBisme est aussi utile à faire entrer en société de jeunes gens célibataires qui reviennent de leur collège. Bon. Mais il faut aussi penser que l'idée du mariage que ces gens-là ont au XVIIIe siècle n'est pas la nôtre. En principe, nous pensons que le mariage est quelque chose de très sérieux et que si je me marie avec une femme, c'est la femme de ma vie. Alors, laissons ce qui peut arriver, mais en principe, hein, je pense que c'est la femme de ma vie et je veux être avec elle et elle veut être avec moi continuellement, ou presque continuellement. Si nous allons au cinéma, nous allons aller ensemble au cinéma, au dîner, etc. au XVIIIe siècle, c'est pas comme ça. Pas du tout. Même si le mari et la femme s'aiment, utilisons ce mot amour qui est un peu ambigu, et ils ne pensent pas du tout qu'ils doivent participer continuellement l'un à la vie de l'autre. Et donc, on peut expliquer que beaucoup de bons maris ont fait le chevalier servant à des dames.
Et puis, on se dit, parce qu'on a une vision moderne et contemporaine de ces choses-là, bah, si le mari meurt, eh bien, le chevalier servant va le remplacer dans ce nouveau couple qui peut se recréer, puisqu'il a toujours été auprès de la femme noble. Eh bien, non.
Non, parce que ce sont deux rôles différents. Et le chevalier servant, en principe, n'est pas un amant.
C'est ça.
N'est pas un amant.
Et donc, on voit des femmes qui se débarrassent de leur chevalier servant à la mort de leur mari, mais elles s'en débarrassent aussi à d'autres moments parce que elles s'en lassent, ils sont là depuis trop longtemps, parce qu'on voudrait en avoir un plus jeune, différent, pouvoir faire des conversations différentes aussi avec lui. Et ça, c'est tout à fait étonnant, surprenant, et c'est ce qu'on découvre en vous lisant, Roberto Pinzocchi.
Mais pourquoi étonnant? Il faut penser que comme il s'agit d'entretenir des relations qui sont des relations sociales, encore plus que personnelles, c'est assez normal qu'il y ait des changements. Évidemment, et pendant ces liens qui, quelquefois, sont très longs, des décennies aussi, il peut arriver que les relations entre cette dame et ce chevalier servant puissent changer. Et donc, il y a aussi des chevaliers servants qui sont abandonnés ou qui abandonnent. Et qui abandonnent une relation qui peut être sociale ou personnelle aussi.
Alors, ce qui est très étonnant, c'est à chaque fois, quand arrivent par effraction ou par déplacement des Français dans cet espace-là. Moi, j'ai bien aimé, effectivement, voir arriver Sade ou de Brosse au XVIIIe siècle, au début, mais à la fin du XVIIIe siècle, il y a la Révolution française, et on voit arriver des femmes et des hommes qui fuient la Révolution française. On y trouve, par exemple, Vivant Denon, du côté de Venise, qui lui-même fait le chevalier servant. Il s'est transformé en chevalier servant d'une noble vénitienne. Et lorsqu'une autre, un autre personnage important, Elisabeth Vigée-Lebrun, arrive à Venise en 1790, cette noble vénitienne lui dit bah, « je te le prête, oui. Parce que si tu ne peux pas sortir dans Venise sans un homme à ton bras, donc vous ne pouvez pas aller sans un ami », lui dit-elle. Et donc elle lui prête Vivant Denon, français, Vigée-Lebrun, française, arrivée en Italie et à Venise, découvre cette pratique qui leur apparaît un peu surprenante en tous les cas.
Ils forment un couple Sigisbéal. Mais la chose la plus intéressante est quand les Français arrive après la Révolution.
Bien sûr.
Et alors, la question est compliquée parce que les généraux, les officiels français sont des tombeurs de femmes, bien sûr. Mais ils ont aussi la morale de la Révolution.
Et le code civil, quand il arrivera.
Et les codes civils, donc quelque chose de très sérieux. Il faut imiter les dames de la Rome ancienne ou de Sparte. Et donc, pas de sigisbéisme. C'est alors qu'il y a la différence. À ce moment-ci, quand il y a une relation entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés, alors on parle d'adultère. Mm-hmm. C'est là que commence la grande tragédie du romantisme du 19e siècle. Cette relation est un adultère. Une tragédie.
Et le mariage d'amour, et la nécessité d'être à deux et non pas à trois, comme auparavant.
C'est le triomphe de Rousseau dans la culture littéraire et la culture en général du 19e siècle.
Et ce qui est très étonnant, c'est que, effectivement, vous prenez pour terminer votre ouvrage, Les Sigisbées, Roberto Pinzocchi, l'exemple du plus grand des Italiens de cette époque-là, pourrait-on dire au moins, il s'appelle Alessandro Manzoni, donc, qui lui-même est issu d'un trio sigisbéen, pourrait-on dire, et qui, lui, va être le tenant le plus ferme de cette idée du mariage d'amour, du regard plongé de l'homme vers la femme et de la femme vers l'homme, séparant justement sa propre tradition familiale de ce qu'il va vivre au début du 19e siècle.
Oui, le cas de Manzoni est vraiment intéressant parce que les deux générations avant lui, dans sa famille, donc il était le petit-fils de Cesare Beccari, l'auteur de traité des délits et des peines, le grand traité des délits et des peines que Voltaire a admiré beaucoup, que Voltaire a fait traduire en français immédiatement. Et donc, Cesare Beccaria et tous ses parents étaient de grands... pas vraiment libertins comme en France. Ils étaient dédiés à ce système du mariage à trois, qui, quelquefois, pouvait devenir un adultère. Mmh. Combien de fois, on ne peut pas le dire. Il y avait un voyageur anglais qui s'appelle Sharp qui disait, dans tous les cas, les femmes italiennes trahissent leur mari. Alors, un homme de lettres italien qui s'appelle Baretti a répondu, non, jamais. Alors, je ne sais pas combien de fois, mais je peux dire moins de ce que pense Sharp, plus de ce que pense Baretti. Donc, dans les cas de Manzoni, il y avait eu sans doute un adultère, et Manzoni lui aussi était fils de chevalier servant de sa mère, et non pas de son père officiel. Mais Manzoni est vraiment intéressant parce que, donc il est l'homme des lettres le plus important de l'Italie du XIXe siècle, et il montre dans sa propre vie le passage entre la galanterie du XVIIIe siècle et le romantisme et le roussovianisme dit du XIXe siècle.
Merci Roberto Bizzocchi d'avoir été avec nous pour nous présenter ce livre tout à fait intéressant, original, qui nous plonge dans un XVIIIe siècle qu'on ne connaissait pas sous cet aspect-là et qui utilise tous les ressorts, pourrait-on dire, de l'histoire contemporaine, de l'histoire telle qu'on l'a fait aujourd'hui, histoire sociale, histoire culturelle, histoire économique. Tout cela est mêlé dans ces 6 JSB qui paraissent chez Alma Éditeur dans une très belle traduction, il faut la signaler, de Jacques Dallarin.
Magnifique traduction.
Merci beaucoup Roberto Bizzocchi.
Merci à vous.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Séverine Yatta, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour donc le début de cette série que nous consacrons dans la Fabrique de l'Histoire aux relations des mères et des filles. Demain, un documentaire que vous avez préparé avec Véronique Samuilov, avec deux historiennes, une
voilà,
mère,
la transmission, une fille, voilà, intellectuelle, on pourrait dire.
Et notre invitée d'aujourd'hui, Scarlett Beauvallet-Boutouiri, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié très récemment avec Emmanuel Berthiaud un livre qui vient tout juste de sortir qui s'intitule « Le rose et le bleu, la fabrique du féminin et du masculin, 5 siècles d'histoire » que vous publiez chez Belin. Vous êtes spécialiste de cette question depuis longtemps, mais c'est un livre de synthèse, pourrait-on dire, qui ramasse justement ces 5 siècles d'histoire, des relations entre le masculin et le féminin, et qui traite aussi de cette question des relations entre mère et fils, ou entre mère et fille, depuis 5 siècles, Scarlett Beauvallet.
Oui, on a choisi de traiter ce sujet-là parce que justement, effectivement, il y a souvent des livres d'histoire moderne, des livres d'histoire contemporaine et on n'avait pas fait le pont entre ces deux périodes. D'où l'association avec Emmanuel Berthiaud pour envisager la question sur le long terme.
Et en partant, Scarlett Beauvallet, d'un espèce de petit fait divers, en fait, oui, sur la problématique du rose et du bleu, donc une couleur associée féminin, bien sûr, et une couleur associée au masculin, vous cheminez pour un petit peu démonter, en fait, d'une certaine manière, tous les a priori qu'on a sur cette construction sociale qui, en fait, est souvent vue comme un effet de nature.
Absolument. Alors, je dois dire que je dois beaucoup aux étudiants, puisque dans le cadre de mon enseignement, je fais un cours sur la naissance et la petite enfance, et j'ai toujours un très grand succès quand je commence par montrer ce magnifique tableau de Philippe de Champaigne, Les enfants à Bert de Montmort, et où je demande de reconnaître évidemment les filles et les garçons. Et alors j'enchaîne, en m'amusant, je dois dire un peu, en montrant des petits garçons en robe qui ont une poupée et qui ont l'air plutôt de petites filles, et puis des petites filles dont on ne sait plus finalement qui est qui. Et comme j'ai un succès, il faut bien dire, avec ce cours, je me suis dit que voilà, il était peut-être utile de partir justement de ces deux couleurs, rose et bleu, et de montrer effectivement que ça correspond à des constructions et non pas, je dirais, à quelque chose
de naturel. Oui, parce que, évidemment, vous nous expliquez dans ce livre que vous avez donc rédigé avec Emmanuel Berthiaud, combien, par exemple, le blanc est partagé pour les jeunes enfants entre garçons et filles pendant très longtemps, puisque c'est évidemment la couleur de la virginité d'une certaine façon, que lorsqu'on met du bleu, eh bien ce sont parfois les filles qui prennent du bleu parce que c'est aussi la couleur de la Vierge, et puis que le rose peut aller puisque aux garçons, puisque c'est une sorte de déclinaison de la couleur rouge, mm-hmm. qui est une couleur qui montre la bravoure, la force, le sang aussi, qui est une qualité masculine, et que cela, ça dure pendant pas mal de siècles, et que évidemment, ça n'est que très récemment, au bout du compte, qu'on a construit, inversé, pourrait-on dire, les polarités.
Oui, à la fin du 19e seulement.
Oui.
Hein, c'est seulement à partir donc de la fin du 19e siècle qu'on va voir ce changement avec les petites filles en rose et les garçons en bleu.
Voilà, qui est une invention, vous le dites, complètement marketing, hein, d'une certaine manière.
Ah
hein,
oui, tout à fait. Tout à fait.
Alors, ce que je trouve assez intéressant dans ce cheminement, c'est qu'à chaque fois, finalement, il faut articuler ça à du politique, à du social. Enfin, je prends l'exemple des vêtements, par exemple, où effectivement, on sait que au 19e siècle, les hommes se mettent à s'habiller en noir, alors que les femmes retrouvent les grandes robes qui ne sont pas commodes, évidemment, qui doivent leur faire la taille fine, enfin, pour qu'il y ait une distinction réelle des sexes, mais au-delà de la distinction des sexes, c'est aussi une distinction de fonction, évidemment, dans la société. La femme doit être belle et mère, et l'homme doit être, enfin, en gros, hein, dans la bourgeoisie, en tous les cas, du 19e siècle. Enfin, il y a toutes ces, la question aussi du maquillage que vous traitez, la cosmétique. Enfin, au départ, hommes et femmes se maquillent, et puis, peu à peu, voilà, les hommes ne se maquillent plus, et puis, tout ça aussi se décline par rapport aux classes sociales, c'est-à-dire, après, le maquillage devient trop vulgaire d'une certaine manière, puisque il y a vulgarisation, et donc il faut l'aristocratie arrête de se maquiller par
oui,
exemple le visage.
Enfin, le vêtement et les cosmétiques sont associés à un art de paraître, hein, un art de paraître, et donc dans la bonne société en tout cas, il n'y a pas tellement de différence, hein, concernant la parure entre les hommes et les femmes. Les hommes donc se maquillent effectivement, notamment avec ce blanc de céruse, hein, qui donne le visage extrêmement blanc et qui sert à masquer les émotions, hein, à cacher finalement, eh bien je dirais tout l'être. Et puis ils utilisent donc des couleurs extrêmement voyantes, chamarrées, des bijoux qui sont incrustés sur les tissus, des fils d'or, d'argent. On a véritablement des hommes qui utilisent, hein, les mêmes artifices que les femmes, qui utilisent de la poudre aussi, hein, pour les cheveux.
Voilà, pour les cheveux, des coiffures.
Des coiffures.
Enfin, il y a un très beau tableau d'ailleurs de... Un portrait du règne de Louis XV.
Ah oui, j'aime beaucoup
de Carl van Loo, où on voit Louis XV, enfin, qui est vraiment paré, alors de tissus colorés, fleuris, mais tout ça va cesser aussi.
Alors, tout ça cesse progressivement, effectivement, et on peut parler au début du 19e siècle du monsieur en noir, hein, puisque les hommes vont renoncer à la parure pour finalement le blanc et le noir, hein, la chemise blanche, le costume noir.
Et le grand avantage de traiter cette question, comme vous le faites avec Emmanuel Berthiaud, Scarlett Beauvallet, sur 5 siècles, c'est justement de montrer les variations du rapport des parents aux enfants, du rapport des garçons aux filles, du rapport de la société aux garçons et aux filles, et donc de nous montrer combien cela est conjoncturel et sur quelques années parfois, et change très brutalement, en particulier tout ce qui tourne autour de la question de l'éducation. Et puisque nous sommes dans une semaine qui est consacrée à la question des relations entre mère et fille, évidemment, il y a tout un chapitre que vous consacrez à cette question de l'éducation des filles et des garçons, qui montre aussi combien, à un moment ou à un autre, et en particulier au tournant du 16e, 17e siècle, eh bien, il y a des changements de rapport vis-à-vis de ce qu'on doit faire aux filles, comment on doit leur enseigner, et les enseigner, et puis ce qu'on doit faire aux garçons parallèlement, et également d'autres changements, évidemment, avec l'avant-révolution française à la fin du 18e siècle.
Eh bien, d'abord, je dois dire que le premier débat du XVIe siècle, c'est de se poser la question si on doit enseigner les filles. Hein, c'est le terme qui est utilisé. Et c'était pas évident, voilà, de répondre. Les humanistes ont permis de donner une réponse positive. Mais alors, cette réponse positive, on le voit très bien, c'est une éducation qui correspond à un rôle déterminé, prédéterminé des femmes. Et ce rôle, c'est d'abord d'avoir un foyer, de s'occuper de ce foyer, d'avoir des enfants et d'élever ses enfants. Donc cette éducation, elle est entièrement tournée autour des futures tâches maternelles. Et différemment pour les garçons, évidemment, puisque le rôle est un rôle extérieur, hein, comparativement à celui de la femme qui est un rôle plutôt intérieur, eh bien, cette éducation va être différente et tournée donc vers les futures carrières qu'ils vont pouvoir exercer.
Et le XVIIIe siècle joue un rôle considérable. Vous évoquez évidemment la personnalité de Rousseau, de son Émile, dont on ne se souvient pas, quand on ne l'a pas lu récemment, qu'il y a un personnage de jeune fille aussi, et que cette jeune fille, disons, peut-être moins choyée dans le récit de Rousseau, enfin plutôt dédiée à une fonction particulière, alors que l'Émile est une façon de faire de la nouvelle éducation à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, ce XVIIIe siècle est un moment charnière, un moment tournant aussi.
Alors, un moment charnière, un moment tournant, mais un moment aussi contrasté. Mm-hmm. Parce que Martine Sonnet avait parlé, donc, quand elle avait écrit son livre, d'un rendez-vous manqué de l'éducation avec les Lumières. Enfin, les Lumières avaient manqué, en quelque sorte, ce rendez-vous avec l'éducation des filles. Et effectivement, il y a des aspects novateurs, mais il y a aussi beaucoup d'aspects qui continuent, qui perdurent finalement entre 16e, 17e, 18e, et où finalement, pour les filles, il n'y a pas cette évolution qu'on aurait pu attendre.
Avec la réclamation de droits politiques, par exemple, qui n'adviennent pas, au bout du compte, moment d'un grand bouleversement comme la Révolution française.
Voilà, qui adviennent, mais qui ne restent pas.
En tous les cas, on sent bien aussi que ce qui est promu à chaque fois, c'est la question du contraste. C'est-à-dire, chaque identité doit être différenciée. Enfin, même s'il y a des périodes, on l'a vu, pour la question du vêtement, où il n'y a pas de distinction, ensuite, très vite, alors, selon des crises politiques, selon des mouvements sociaux, enfin, on sent qu'à chaque fois, il y a comme un retour. Il faut que les deux sexes soient distingués d'une certaine manière. Jusque très récemment, pour parler encore du vêtement, il y a les vêtements unisexes et puis, raison marketing ou non, tout d'un coup, il faut créer des pantalons pour filles, des jeans pour filles et des jeans pour garçons. Enfin, il faut...
Oui, et puis en même temps, les mannequins, certains mannequins sont des mannequins, finalement, hommes, femmes, voilà, dans un sexe indéterminé, je dirais. Hein. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est tous ces balancements, ces retours, ces constructions qui dictent, finalement, des attitudes et des rôles.
Oui, et dans ces constructions, il y a des constructions faites par des intellectuels, ceux qui écrivent, et qui sont souvent des hommes, il faut bien le dire, comme Joseph de Maistre, qui écrit à sa fille, âgée de 15 ans, Constance, en 1808, il lui écrit « Les femmes n'ont fait aucun chef-d'œuvre dans aucun genre, elles n'ont fait ni l'Iliade, ni l'Énéide, ni la Jérusalem délivrée, ni Phèdre, ni Athalie, ni Rodogune, ni le Misanthrope, ni le Tartuffe, ni le Panthéon, ni l'église de Saint-Pierre, elles n'ont inventé ni l'algèbre, ni le télescope, ni les lunettes acromatiques. Mais elles font quelque chose de plus grand que cela. C'est sur leurs genoux que se forme ce qu'il y a de plus excellent au monde, un honnête homme et une honnête femme. » Là, on peut dire que c'est assez clair pour le début. Enfin, bon, Joseph de Maistre, on le connaît comme un penseur du politique relativement réactionnaire, ou du moins très très conservateur, et on voit bien qu'il y a cette vision très conservatrice au début du 19e.
Et ce qui est intéressant, c'est de montrer que cette construction, elle remonte à l'Antiquité. Là, on a commencé au 16e, mais évidemment, il faut se replacer dans l'Antiquité classique, dans cette conception de la nature féminine, hein, une femme qui est destinée, encore une fois, à être mère, et que, bien, voilà, on évolue.
C'est tout ce qu'avait... Bon, les démonstrations de Françoise Héritier, notamment avec le masculin, le féminin, ce cheminement. Alors, il y a la question aussi de la transgression, parce qu'évidemment, à certaines périodes, justement, les femmes, notamment, transgressent, travaillent. Vous parlez des femmes criminelles aussi.
Oui, elles transgressent déjà par le vêtement, le travestissement, par effectivement le travail.
Par exemple.
Oui, dans tout, on peut dire. Hein,
et vous
les
montrez
domaines.
Qu'en fait, du coup, cette transgression est doublement punie. Par exemple, pour les femmes criminelles, on peut remarquer qu'elles seront plus châtiées. La législation du travail est beaucoup moins favorable. L'inégalité des salaires est encore existante.
Et puis, je dirais qu'il y a quand même une évolution. On ne va pas faire de positivisme, mais il y a un certain nombre d'avancées. Et puis, on voit parfois qu'il y a des reculs brutaux. Hein, par exemple, avec le code civil, où là, finalement, pour les femmes, je dirais qu'on peut l'analyser comme une régression.
Oui, et à d'autres moments, qui sont des moments d'avancée, mais qui sont là aussi contrastés. Vous reprenez dans un des chapitres sur l'éducation Jules Ferry, qui en 1870, salle Molière, prononce un discours, réclamer l'égalité d'éducation pour toutes les classes, ce n'est faire que la moitié de l'œuvre, cette égalité je la revendique pour les deux sexes, dit-il. Mais un peu plus loin, il dit que les évêques le savent bien, celui qui tient la femme, celui-là tient tout, d'abord parce qu'elle tient le mari, c'est pour cela que l'Église veut retenir la femme, et c'est pour cela qu'il faut que la démocratie choisisse sous peine de mort, il faut choisir citoyen que la femme appartienne à l'Église ou qu'elle appartienne à la science. Donc il y a toujours cette vieille idée classique, pourrait-on dire, que à la maison c'est la femme qui décide, et qu'au bout du compte, eh bien, si on veut faire de bons républicains, il faut que les femmes soient elles-mêmes convaincu de devenir républicaine.
Devenir effectivement républicaine. Et donc, c'est tout aussi, pour revenir à cette question de l'enseignement, d'où l'importance fondamentale qu'ont les femmes, hein, puisqu'elles tiennent, pour les jeunes enfants, au départ pour les garçons et les filles, après plutôt quand même pour les filles, cet aspect de l'éducation. Hein, et là, je dois dire qu'elles ont un rôle effectivement majeur.
Et Scarlett Beauvallet, alors, en tant que, peut-être en tant qu'enseignante, puisque là, vous avez écrit un ouvrage de synthèse sur ces problématiques, je ne sais pas, les étudiants, les étudiantes que vous suivez, par exemple, en thèse, et qui veulent travailler sur ces problématiques du genre, quels sont en particulier, peut-être, les sujets, justement, qui les intéressent aujourd'hui, est-ce que où c'est très varié, il y a des problématiques plus politiques, plus
oui,
concerneraient les apparences, l'éducation.
Voilà, je crois que c'est assez varié en fait. Ce qui est intéressant, c'est de leur montrer finalement encore une fois la construction et le fait que rien n'est acquis, hein, mais qu'il y a des changements. Donc on peut prendre, je dirais, différentes branches. On peut prendre tout simplement des écrits du fort privé pour voir comment les femmes se projettent dans l'écriture, comment les hommes le font également. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de montrer aux étudiants qu'on peut prendre différents thèmes pour faire cette lecture,
décliner cette
analyse.
Mais on voit bien que malgré le long travail que vous avez mené, vous, mais aussi d'autres historiennes et historiens du genre depuis maintenant une vingtaine d'années en France, ça a du mal à percer en dehors du milieu universitaire. C'est-à-dire que cette question de la construction des sexes, des rôles de sexe, etc., ne parvient pas à être entendue en dehors d'un certain milieu qui est celui auquel vous appartenez, d'une certaine façon, Scarlett Beauvallet.
Oui, c'est même plus que ça, puisque quand les ABC de l'égalité, quand on a parlé à l'école justement de faire une égalité entre petits garçons et petites filles, de donner les mêmes jouets, et ça a été très compliqué. Et il y a même des parents qui ont retiré leurs enfants en disant « Mon fils, tu vas devenir une fille.
» Mais en même temps, le politique se l'approprie aussi. Parce que dans les crèches, justement, la question des jeux, peut-être les péricultrices ont été aussi formées parfois. Mmh. Je sais qu'à l'école aussi, la question des études aussi sur les livres scolaires. Mmh. Et puis, il y a la question de l'enseignement de l'histoire aussi, le fameux manuel que vous avez à plusieurs écrits.
Mais c'est pas suffisant,
c'est jamais suffisant.
Non, voilà, ouais. Mais on voit tout de même les réticences, hein, et il suffit que vous alliez, par exemple, au moment de la rentrée scolaire dans un magasin, et vous voyez les cartables roses et les trousses roses, et puis réservées aux petites filles jusqu'aux crayons, et puis l'autre côté, ce qui est pour les garçons.
Mais qu'est-ce qui, selon vous, fait que cette idée de construction des rôles de genre, des rôles de sexe, etc., ne passe pas aussi facilement que cela, alors qu'effectivement, quand on lit Le Rose et le Bleu, on voit bien effectivement que le travail des historiens, le travail des anthropologues, le travail des sociologues sur ces questions est extrêmement clair, précis, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des résistances, selon vous, Scarlett Beauvallet ?
Je pense tout simplement qu'on assigne à chacun des sexes des rôles et que, bien parfois, on n'a pas envie de partager.
C'est simplement ça, selon vous ?
C'est beaucoup.
C'est effectivement beaucoup. Merci d'être venu nous présenter Le Rose et le Bleu, la fabrique du féminin et du masculin, 5 siècles d'histoire, Scarlett Beauvallet-Boutwiri et Emmanuel Berthiaud. C'est signé de vous deux et c'est donc chez Belin. Ça vient tout juste de sortir. Merci d'être venu le présenter en ouverture de cette série que vous consacrez donc avec nous, Séverine Liattard, à la question des relations entre mère et fille.
Voilà, et nous avons choisi avec Véronique Samuilov pour le documentaire de demain de traiter plutôt de la transmission intellectuelle mère-fille, puisque j'ai sollicité Catherine Kokri-Vidrovitch, grande historienne de l'Afrique, et sa fille, Natacha Kokri, pour essayer un peu de comprendre s'il y avait eu transmission, comment, alors transmission d'une discipline, en l'occurrence l'histoire, d'un métier, d'objet d'histoire.
Alors,
bien sûr, toutes les deux sont historiennes. Natacha Kokri, elle est spécialiste de la ville, de l'urbanisme, de la consommation au XVIIIe siècle.
Elle était l'autre jour dans une émission de la Fabrique de l'Histoire,
ouais,
d'ailleurs.
Elle n'a pas choisi le même sujet que sa mère, heureusement, d'une certaine manière. Mais son père est aussi... Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, bien sûr. Son père était un grand géographe spécialiste de l'urbanisme. Voilà, donc on pourra entendre un petit peu ce cheminement aussi de deux générations différentes. C'est-à-dire Catherine Kokrividrovitch qui commence ses études dans les années 60 et Natacha Kokri qui, elle, les commence dans les années 90. Et quelles sont aussi les fonctions d'historien selon L2.
Un petit extrait.
Est-ce que vous avez eu parlé de méthodologie historique ensemble ou dans vos manières de travailler, même si vous avez des sujets complètement différents, hein,
Je crois que c'est implicite, ça fait partie du métier.
Oui, on n'a pas vraiment discuté, sauf pour l'écriture. Tu m'avais donné des bons conseils au moment de la thèse, de la rédaction de la thèse, que je transmets aux étudiants maintenant. Efficace. Ne pas se perdre dans des discours alambiqués et se demander toujours si ces mots-là sont utiles ou non au raisonnement ou à l'expression. Ça m'avait été utile. Alors maintenant, je l'ai complètement intégré, donc je l'ai mise à ma sauce. Mais ça fait partie des choses qui, pour moi, font partie vraiment de la rigueur scientifique. Et ça, c'est pas très facile à transmettre aux apprentis, aux jeunes, aux étudiants, de faire la distinction entre la belle langue et l'efficacité scientifique.
Mais ce genre de choses, ça se transmet, pas nécessairement de mère à fille, mais d'historien en historien, parce que moi je ne fais que transmettre en fait quelque chose que Marc Ferro m'a appris.
Oui, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. C'est aussi ce que je dis aux étudiants. Si on annonce dès le départ une idée forte, on l'assume. Donc écrire de l'histoire, c'est aussi prendre un tout petit peu de risque sur des faits, mais c'est tout de même donner une opinion sûre.
Voilà un extrait du documentaire qu'on pourra entendre demain, donc signé Cyril Niatard et Véronique Samouilov, avec deux historiennes, mère et fille, donc Catherine Kokrividrovitch et Natacha Kokri. Mercredi, nous traiterons de la question de l'éducation des filles et jeudi, de la question, épineuse question, y a-t-il eu un matriarcat dans l'histoire? Ce sera la thématique de la Fabrique de l'Histoire toute cette semaine. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Dalia était avec nous à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation. Vous pouvez l'écouter ou la réécouter sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez aussi la télécharger dans l'année qui suit sa diffusion et puis discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, nous suivre sur le réseau Twitter Fabrique FC. Fabrique FC, c'est l'adresse de la Fabrique sur Twitter et également discuter sur le site de la Fabrique France Culture. .fr